française.
Latina.
La franco-latina.
À 31 ans, Rambo était mort. Depuis l'aube de ses 31 ans, Escobar contemplait cette révélation posée comme un oiseau sur l'appui de la fenêtre. À 31 ans, Rambo était mort. Incroyable. À côté de lui, Fina dormait toujours, comme si elle ne se rendait pas compte de la gravité de la chose. Il lui boucha le nez avec deux doigts. Elle gémit, se retourna, puis, avec un ronflement, commença à respirer tranquillement par la bouche. Les femmes ne comprennent pas. Voilà les premières lignes de Un mal sans remède, le roman qui vient de paraître aux éditions Bellefond, un roman paru en Colombie voici 25 ans, un roman de Antonio Caballero, que nous allons rencontrer tout de suite. Il est à la fois journaliste, écrivain, un homme engagé et il est aussi un romancier dans le roman Un mal sans remède, Sin Remedio, dans la version originale, paraît ces jours-ci en France. Antonio Caballero, bonjour.
Bonjour Eduardo. Romancier, je suis romancier dans un seul roman. Mais oui, je suis romancier quand même.
Quand même. Et d'un roman qui a eu une vie curieuse parce qu'il parle des années 80, il a été écrit à peu près à cette époque-là, mais il a mis du temps à décoller. Et pourtant, c'est un roman qui a été salué par la critique. Comment s'explique ce décollage compliqué, difficile, lent ?
Non, il n'a pas mis du temps à décoller, il a mis du temps, beaucoup de temps à être traduit. C'est la première fois qu'il est traduit. Mais il s'est vendu en Colombie surtout, mais aussi en Espagne, en Argentine, beaucoup. Depuis le début, on a fait plusieurs réimpressions. Ça a été publié d'abord en Espagne par Bruguera, en Colombie par La Oveja Negra, puis par Planeta, puis par Alfaguara, puis par... Enfin, ça a été publié plusieurs fois.
Oui, en fait, c'était pas bien formulé la question. J'ai dit ça parce que vous êtes quand même quelqu'un qui, avec la France, a des liens qui auraient rendu assez évidente une traduction plus tôt.
Oui, mais mes liens avec la France, c'est parce que j'ai vécu en France quand j'étais jeune, mais je n'ai pas eu de lien, institutionnel avec la France, ni avec les maisons d'édition françaises non plus. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que je n'ai jamais eu un agent qu'on ne m'a pas traduit. Peut-être. Peut-être parce que ça n'a pas intéressé les maisons d'édition étrangère, je ne sais pas. Enfin, je suis très content que quand même, 20 ans après, 25 ans après, mon roman soit traduit en français. Et j'espère qu'il le sera en italien, en allemand, en anglais. J'espère.
Alors, on parle là d'une Colombie, et plus que d'une Colombie, d'une Bogota, qui est un lieu d'errance de votre personnage, Ignacio Escobar. Et on est tenté très souvent on a très souvent la sensation, lorsqu'on ne connaît pas forcément Bogota, on connaît peut-être des mauvaises caricatures de la situation colombienne, de penser que ça pourrait être d'une certaine manière la Bogota d'aujourd'hui. Et c'est vrai, en quoi elle est différente, celle d'aujourd'hui, de celle des années 80?
Quand j'écris ça, c'était un peu une caricature de Bogota, justement. Je crois que la Bogota d'aujourd'hui est devenue plus semblable à sa caricature du temps qu'elle ne l'était à l'époque. Pas seulement la Bogota, la Colombie. Enfin, la société colombienne, qui dans mon roman était une société corrompue, et l'est devenue encore plus. La drogue, par exemple, qui à l'époque, quand j'écris ça, il y a 25 ans, à peine commençait à pointer... Aujourd'hui, domine tout. Et à l'époque, j'ai dessiné une Bogota où la drogue était toujours présente, ce qui n'était pas le cas à l'époque, mais qui maintenant l'est. C'est un peu, prémonitoire ou prophétique ce que j'écris à l'époque et que je voulais une caricature, pas un portrait. C'est devenu un portrait un peu si vous voulez, comme le portrait de Dorian Gray de Wilde.
On a l'impression parfois que ce sont des problèmes comme la drogue qui sont à la base, par exemple, de la violence. Et on attribue la situation colombienne notamment à la drogue. Et vous, vous dites que ce n'est pas tout à fait ça, qu'il y a en Colombie ce que vous appelez une énergie qui effectivement est là, qui est celle de la société colombienne, que d'une certaine manière la drogue, la corruption, etc. ont plutôt dévoyé.
Oui, je crois que la drogue n'a fait que renforcer des choses qui existaient déjà. La drogue n'est pas une cause des choses qui se passent en Colombie, comme une vitamine qui fortifie tout, qui fortifie et qui corrompt. Je ne dirais pas que c'est à cause de la drogue que la société colombienne est violente, par exemple. Elle est violente et puis la drogue donne de l'argent à cette violence. Elle est corrompue et la drogue donne de l'argent à cette corruption. La drogue exagère tout, disons. La drogue accentue tout. Et évidemment, si la drogue n'existait pas, enfin, la Colombie serait moins violente, moins corrompue, etc. Mais les tendances sont les mêmes et l'énergie est la même. C'est vrai que cette énergie aurait pu être, enfin, a été dévoyée, comme vous dites, par l'argent sans fin de la drogue.
Dites-moi, dans ces rôles prémonitoires ou prophétiques que vous avez peut-être joué avec ce roman, vous faisiez une caricature de ce qui est devenu une réalité. Aujourd'hui, quelle serait votre prophétie, quelle serait votre prémonition par rapport à la Colombie de demain ? Est-ce que vous sentez que, effectivement, la société colombienne, cette énergie qu'elle possède, pourrait la mettre au service de ce qu'on pourrait appeler un redressement ?
Je suis assez pessimiste, vraiment, enfin, parce que, d'un point de vue politique, par exemple, la Colombie est aujourd'hui devenue beaucoup plus négative, dans mon sens, qu'elle l'était il y a 20 ans ou 30 ans. Il y a 20 ans, 30 ans, les gens croyaient à la politique aussi bien du côté de la droite que du côté de la gauche. Aujourd'hui, vraiment, la politique, ce n'est que des affaires des drogues, des affaires mafieuses. Ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans, 30 ans, même si la violence était la même. Mais il existait aussi bien à la droite qu'à la gauche. Des convictions, des idées, ça n'existe plus, à mon sens. Peut-être que je me trompe, mais je suis de plus en plus pessimiste. Pour ce qui est de la Colombie, oui. Enfin, pour ce qui est du monde aussi, mais la Colombie fait partie du monde. Je ne veux pas paraître apocalyptique, mais je crois que le monde est apocalyptique.
Alors, le romancier a prophétisé une certaine situation. Et...
Oui, n'exagérons rien. Enfin, je ne suis pas un prophète.
Non, j'entends bien et je suis sûr que les auditeurs de la Franco Latina feront la part des choses. Ce que je veux dire, c'est que vous faites au jour le jour un métier qui probablement nourrit, évidemment, ce pessimisme dont vous venez de parler, qui est le métier de journaliste. C'est quoi être journaliste aujourd'hui en étant comme vous, quelqu'un qui a ce regard sur la société, qui a ouvertement fait figure d'opposition dans un pays où la violence n'a pas été épargnée, y compris aux journalistes? Ça ressemble à quoi d'être journaliste en Colombie aujourd'hui?
Bon, d'abord, il n'y a pas de censure de presse en Colombie. Il n'y a presque jamais eu de censure de presse. Il n'y en a pas eu. Depuis que je suis journaliste en Colombie, je n'ai pas connu la censure de presse qui a existé à d'autres époques. Mais il peut être dangereux d'être journaliste en Colombie. On n'est pas censuré, mais on est peut-être tué. Enfin, beaucoup de journalistes ont été tués ou ont dû s'exiler. Et moi-même, j'ai passé une bonne partie de ma vie hors de Colombie volontairement, ce n'est pas parce que j'étais exilé politiquement. Mais deux fois, oui, j'ai été menacé. Il m'a fallu sortir vite parce que, justement, en Colombie, les choses se passent très vite. Et on oublie très vite aussi. C'est-à-dire que les deux fois que je suis sorti de Colombie forcé par des menaces de l'armée, justement, après quelques mois, 6 mois, 8 mois, je pouvais retourner parfaitement parce que on m'avait oublié. Enfin, les gens qui m'avaient menacé n'étaient plus dans leur poste. Le colonel qui voulait me tuer n'était plus à Bogota, mais il avait été muté quelque part d'autre. Ça change très rapidement en Colombie. Donc, les menaces s'oublient très rapidement aussi. Mais il faut les prendre au sérieux. C'est ce que je fais. J'ai eu la chance de pouvoir sortir de Colombie parce que j'ai toujours eu la chance aussi de pouvoir travailler pour des journaux ou des hebdomadaires pas colombiens, en Espagne surtout. Donc je pu entrer et sortir de mon pays plus ou moins quand je le voulais. Ce qui n'est pas donné à tout le monde, vraiment.
Justement, sortir, aller, revenir, il me semble que les romans que vous avez écrits, vous ne l'avez pas écrit forcément en Colombie. Et il me semble que vous ayez dit à un moment donné que c'est des genres, des choses qu'on a du mal à écrire quand on est plongé dans la réalité dont on parle. C'est vrai, ça donne une distance qui aide à dire tout ce qu'on a sur le cœur, pas seulement à l'esprit.
Oui, je crois que si j'ai écrit ce roman en partie, enfin ça m'a pris très longtemps, ça m'a pris 12 ans, ce qui est long. En partie je l'ai écrit en Colombie, mais la plupart je l'ai écrit hors de Colombie, surtout en Espagne. Et si, bien entendu, je crois que la distance donne plus de clarté sur la réalité, enfin parce qu'elle devient moins oppressante, moins accablante, qu'on peut la dessiner mieux. Je vous disais que c'est une caricature que je fais là, parce que moi je suis un caricaturiste, j'ai toujours été aussi bien dans le dessin que dans la littérature. Je trouve que j'ai été toujours outré, disons. Pour cette outrance, bien entendu, la distance est bonne.
Journaliste, chroniqueur, écrivain d'un roman, qui est un exercice différent, et puis caricaturiste. C'est un troisième langage, si je peux dire. La caricature est souvent une sorte de condensé violent et saisissant dans lequel il n'y a pas possibilité de tourner autour du pot, comme on dit en France. Lequel de ces langages vous convient le plus ?
Je ne crois pas qu'ils soient très différents. Vraiment, justement, c'est pour ça que je me suis défini comme un caricaturiste. C'est ce que je fais en premier, quand je commençais à faire des caricatures, quand j'avais 16 ans, 17 ans, à publier des caricatures, je veux dire. Puis mes colonnes de presse, et puis mon roman, que je répète, qui n'a qu'un seul, ont aussi les traits de la caricature, je crois. Je ne crois pas que ce soit très différent. On peut écrire des caricatures, on peut dessiner des caricatures. C'est une façon de voir les choses. Ce n'est pas un langage, mais plutôt une position. Une position devant la vie, devant les choses.
Une dernière chose. La Colombie a ce paradoxe d'avoir une situation considérée comme dangereuse pour des journalistes, dont vous et d'autres, qui ont soit été menacés, soit qui ont carrément perdu la vie. Et par ailleurs, il y a cette liberté d'expression. Est-ce que ce paradoxe qui crée finalement une sorte de tension entre le fait que la possibilité de s'exprimer elle est ouverte, mais en même temps il y a ces dangers, est-ce que ça crée une tension particulière qui finalement rend le journalisme éventuellement plus riche, plus vivant, plus dramatique parfois ?
Plus riche ? Je ne sais pas. Enfin, quand vous avez dit, c'est lapsus que vous avez eu de perdre la vue. Je crois que on perd la vue beaucoup en Colombie. Les journalistes ont beaucoup perdu la vue, justement parce qu'il y a le risque de perdre la vie. C'est dangereux, donc on préfère ne pas voir ou ne pas regarder, si vous voulez. C'est enrichissant ? Non, je crois que c'est appauvrissant, au contraire. Je crois que le journalisme colombien, bien entendu, il y a de tout, mais je trouve qu'il est plus pauvre aujourd'hui qu'il y a 20 ans, par exemple. Et c'est justement un peu pour cette perte de la vue qui est une forme aussi de survivre, non ?
20 ans après sa parution en Colombie, le roman va paraître en France. Vous avez comme ça des émotions particulières, des attentes particulières, une curiosité particulière de ce qui va arriver avec...
Oui, bien entendu. Enfin, j'aime beaucoup que ça ait été traduit. Et d'ailleurs, à cause de la traduction, je l'ai relu. Je ne l'avais pas relu depuis très longtemps. Mais comme j'ai aidé dans la traduction, il m'a fallu le relire. Et je le trouve trop long, d'abord. Mais je ne devrais pas le dire. Mais si, je suis très... Enfin, je trouve très émouvant, si vous voulez, que ça paraisse en français.
La Franco-Latine.